Bienvenue. Cette semaine, France Culture rend hommage au philosophe Michel Serres, récemment disparu. En 2002, il s'entretenait avec Jean-Paul Dolé. Aujourd'hui, Internet, dans quel espace vivons-nous ?
Michel Serres, bonjour.
Bonjour.
Hier, nous avons parlé de ce que vous pensiez sur l'état du monde, de ses mutations et de notre nouvelle impuissance, puissance que nous avons sur lui. Aujourd'hui, il est temps, il me semble, que nous abordions vos propositions qu'il faut bien appeler politiques pour aider l'humanité à franchir ce cap. Je sais bien que, comme vous le rappeliez dans une de nos conversations, votre génération se méfie du mot politique et de la politique parce qu'elle sait trop bien de quel poids de souffrance et de sang ce mot recouvre. Mais il faut, je pense, quand même que vous lanciez à l'eau. Mais si la politique, c'est d'abord l'art de trouver des solutions pour vivre ensemble, il faut évidemment savoir dans quel espace et dans quelle terre on vit. C'est pourquoi je voudrais vous interroger aujourd'hui sur cette nouvelle terre et nos nouveaux rapports, nos nouveaux contrats que nous devons avoir avec elle et le nouvel espace que nous habitons et par conséquent une nouvelle manière que nous avons pour y vivre et à y vivre. Et par conséquent, je voudrais aussi dans un deuxième temps vous interroger sur la ville. Est-ce que vous en êtes d'accord, monsieur?
Ah, mais tout à fait. Bon, je veux bien parler de l'espace.
Commencer par la terre.
Alors, je veux bien parler de l'espace. Et en effet, il y a deux manières d'en parler. Une manière, disons, concrète ou réelle. Et une seconde manière, disons, plus virtuelle, en raison des nouvelles technologies. Et la première est plus réelle. Et pourquoi? Parce que, en effet, ce n'est pas une question d'espace abstrait, mais de terre concrète. Et nous avons dit, je crois, dans la dernière conversation que nous avons eue ensemble, que l'extinction de l'agriculture comme modèle dominant de l'activité humaine n'avait donné aux Occidentaux au moins un nouveau rapport à la terre, c'est-à-dire au paysage, c'est-à-dire à ce qu'on appelait autrefois la nature.
Voilà.
Et je me souviens très bien, lorsque j'étais enfant, que lorsque on passait sur les routes, on voyait les champs occupés par 10, 20, 30 personnes qui
oui.
travaillaient en commun, qui travaillaient en groupe. Il faut maintenant aller en Chine, il faut aller en Amérique du Sud pour voir des scènes de ce genre. Parce
oui.
qu'aujourd'hui, nous vivons dans une terre vide.
Totalement
là
vide.
Où il y avait 60-70% de paysans dans la population, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2,3. Par conséquent, la paysannerie s'est étiolée et donc il y a un espace complètement vidé, d'une part.
Inhabité.
Inhabité, c'est ça. Mais travaillé quand même avec beaucoup d'art et d'amour par les paysans qui restent encore là et que j'honore beaucoup parce qu'ils sont parmi les gens les plus avancés, d'ailleurs, dans la technicité et les relations même internationales.
Et vous disiez d'ailleurs que c'est parce qu'il y avait des paysans qu'il y avait des pays.
Oui, qu'il y avait des pays et des paysages.
Et des paysages.
Et même on oublie de dire que le terme de langue française paix, P-A-I-X, la paix, opposée à la guerre, vient aussi de ce même mot, pagus, qui donne paysan, païenne, paganisme et paysage. Et donc, je crois que le paysan était le premier sculpteur ou peintre ou dessinateur du paysage et que la transformation profonde des paysages aujourd'hui est un des signes de notre transformation du rapport à la terre. Ça, c'est un premier point,
oui,
mais nous l'avons déjà abordé.
Si vous permettez,
oui
Michel Serres, s'il n'y a plus de paysans, qui va en prendre soin de
ah ben
cette
terre? Voilà.
Qui va en prendre soin?
Très souvent, il y a même déjà 10, 20 ans, quand je m'entretenais avec les directeurs ou les responsables des syndicats agricoles ou même des ministres de l'agriculture, je leur disais, faites attention, aujourd'hui, il va y avoir deux sortes de paysans, le paysan producteur et le paysan paysage. Et il arrive souvent que beaucoup d'accidents, dits naturels, viennent du fait que l'absence de densité de l'occupation de la terre aujourd'hui ramène le pays, par exemple, les grandes catastrophes que nous avons eues à l'hiver dernier par la tempête, aujourd'hui, beaucoup de paysages sont encore très, très blessés par cette tempête, tout simplement parce qu'il n'y a plus de gens pour amender les catastrophes que nous avons subies. Donc là, il y a vraiment un rapport à la terre, à la paysanne, au paysage, un rapport assez profond. Et il m'arrive souvent de penser que tous les partis écologiques ou écologistes sont simplement la trace de cette perte totale de la paysannerie, et que vous savez sans doute qu'il n'y a plus aujourd'hui une seule personne dans les villes qui n'ait pas son petit coin de jardin ou sa petite fleur sur la fenêtre. Et on a l'impression, si vous voulez, que cet amour du jardinage vient de la perte de la terre en question.
Donc, est-ce que vous diriez que les écologistes, c'est des urbains en nostalgie de quelque chose
En quelque sorte, il y a du vrai. C'est-à-dire que les discours des écologistes disent ce que autrefois les paysans faisaient. Voilà, c'est ça que je dirais. Ça n'épuise pas la doctrine des écologistes, mais ça la définit assez bien. Ça, c'est le premier cas. Le second, c'est en effet dans quel espace vivons-nous. Alors ça, c'est très intéressant.
Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que vous dites quelque part que, à la question où habites-tu, on peut répondre, vous répondez partout. Oui. Et vous dites même cette chose étonnante que, à la limite, ce qui était uniquement réservé à Dieu, c'est-à-dire l'ubiquité, maintenant, aujourd'hui, d'un certain point de vue, ça nous caractérise. Oui. Alors, là, évidemment, j'aurais des objections à vous faire, parce qu'il me semble que c'est plus compliqué que ça. Il me semble que, malgré tout, les gens qui sont dans l'ubiquité, c'est les plus riches, peu de gens, et c'est les
plus riches et les puissants. Je le dis aussi dans mon livre, bien entendu. Mais je voudrais dire surtout la chose suivante. C'est qu'on a très peu réfléchi sur ce que c'était qu'une adresse. Alors, qu'est-ce que l'adresse? Eh bien, où habites-tu? Où habitez-vous? Où habitons-nous? Eh bien, on donne en général le nom de la rue, le numéro de la maison, le quartier, le code du lieu, le département, par exemple, et le pays. Et donc, notre adresse était depuis toujours référée à un lieu, locus, un lieu bien déterminé. Et on oublie quelquefois que le terme adresse, vous m'avez posé une question politique, alors je réponds, le terme adresse a un préfixe, ad, et puis une racine. Et cette racine, c'est le rectus latin, qui est la direction. Si vous prenez cette direction, vous arriverez chez Michel Serre ou chez Paul Durand, qui vient de vous donner votre adresse. Mais le mot direction, qui est le même mot que le mot adresse, recouvre deux mots très secrets, très importants dans le mot adresse. C'est premièrement le mot droit. Aller droit, mais c'est aussi le droit des tribunaux et des experts judiciaires, le mot juridique, si vous voulez. Et derrière le mot droit, il y a le mot roi, rex, le roi. Ouais. Et adresse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette adresse est connue, alors premièrement, celui qui collecte des impôts de la part du roi va vous trouver pour lever votre impôt, et le gendarme envoyé par le droit peut vous requérir si vous avez commis un crime ou un délit. Donc le mot adresse est très profondément enraciné dans l'espace, mais cet espace est à la fois naturel, confère le paysage, mais il est à la fois juridique et politique.
À propos d'adresse, Baudelaire raconte que justement à Paris, il y avait encore des endroits où il n'y avait pas d'adresse.
C'est ça.
Hein, et que ça permettait aux gens de se cacher.
Et voilà.
Et que c'était une revendication, ils n'aimaient pas avoir des adresses.
Eh bien, c'est très bien. Pourquoi? Parce que, effectivement, celui qui n'a pas d'adresse vit dans un non-lieu. Et dès le mot non-lieu étant évidemment à la fois spatial et juridique, parce que c'est un lieu de non-droit. Voilà. S'il vous plaît, on va revenir sur la notion de non-droit tout à l'heure. Mais revenons maintenant au téléphone portable ou à ce qui demain sera l'UMTS. Ce qui est d'ailleurs vrai aussi pour l'ordinateur portatif. Quelle est votre adresse? Et la personne qui va répondre par un nom de code. Elle va répondre par une suite de noms, de lettres ou de chiffres. Et si je veux vous appeler sur votre téléphone portable, je vais vous trouver quel que soit le lieu. C'est-à-dire, je pourrais vous toucher si vous êtes au sommet du Cervin, si vous êtes le long de la vallée du Rhône, ou si vous êtes en train de courir dans le désert de Gobi. Donc, aujourd'hui, notre adresse n'est plus référée à un lieu. La nouveauté profonde de notre rapport à l'espace, c'est que nous ne vivons plus dans une géométrie, et dans une géométrie qui avait ses coordonnées pour être quadrillée par le droit, par le roi, etc. Mais nous vivons dans un non-lieu, puisque je peux vous atteindre, cher Jean-Paul Daulé, quel que soit l'endroit où vous soyez, il suffit que j'ai un code ou un chiffre. On est passé de la géométrie à l'arithmétique.
Oui, mais alors on ne peut plus se cacher, là. Alors, c'est infernal.
Alors, est-ce qu'on ne peut plus se cacher ou est-ce qu'on peut se cacher? Alors, c'est là la question. Puisqu'on est dans un non-lieu, sommes-nous dans un non-droit? Oui. C'est la vraie question. La vraie question est à la fois juridique et politique. Alors, voici la réponse que je donne à cette question. C'est la suivante. Si vous êtes dans un non-lieu qui est un lieu de non-droit, vous êtes quelque part comme dans une forêt où autrefois les gens de sac et de corde, les cambrioleurs, les assassins se réunissaient parce qu'ils savaient que dans cette forêt, les gendarmes ne les attraperaient pas. C'était ce qu'on appelait un lieu de non-droit. Mmh. Et c'est la question qu'on pose aujourd'hui à propos du web, de la toile, savoir si on doit la réglementer par un droit ou si on ne doit pas la réglementer par un droit. Vous connaissez la question sur ce point.
Oui, oui, oui.
Alors absolument. Voilà comment je réponds. Pour le moment, la toile est un lieu de non-droit. Qu'est-ce qu'un lieu de non-droit? C'est la forêt de ces malandrins.
Voilà.
C'est la forêt de ces gens-là. Or, cette forêt est très connue. Elle est connue depuis toujours. Elle est connue depuis Tite-Live, puisque c'est dans cette forêt que Romulus et Rémus sont nés, en étant allaités par une louve. Mais pour faire encore mieux, je peux dire que cette forêt où il n'y a que des malandrins, c'est la forêt de Sherwood.
Voilà.
Or, on s'aperçoit tout d'un coup que ces malandrins, ces voleurs, ces assassins, ont élu un chef un jour, et qui s'appelle Robin des Bois. Et ce Robin Hood, en anglais, ou Robin des Bois en français, personne ne s'aperçoit que c'est un drôle de nom. Que c'est un nom propre très étrange. Premièrement, il porte le nom du bois, c'est-à-dire de la forêt, ouais. C'est-à-dire du non-lieu, c'est-à-dire du lieu de non-droit. C'est un homme qui vit dans le non-droit, comme les malandrins et les hommes de sac et de corde qui l'ont élu. Mais il s'appelle d'autre part Robin, et on a oublié, mais dès qu'on le dit, tout le monde s'en aperçoit, que Robin est un nom qui, au Moyen-Âge, voulait dire l'homme de robe. L'homme qui porte la robe. Oui. Or, la robe, c'est la robe du magistrat.
Voilà.
C'est la robe du juge.
Oui.
Et donc, Robin des Bois, ça veut dire l'homme de droit qui gouverne dans un lieu de non-droit. C'est très intéressant. Cela veut dire que, quel que soit l'endroit où nous nous mettons ensemble, et c'était votre question,
voilà, ensemble.
Mais comment vivre ensemble?
Voilà.
Alors, si on met des gens ensemble dans une forêt où il n'y a pas de droit, il va y avoir que des voleurs, que des assassins, que des gens sans foi ni loi. Sans foi ni loi, et par conséquent, ils vont avoir une vie impossible entre eux. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il faut se gérer ensemble et élire une autorité, bref, avoir un droit. Et peu à peu émerge de ce lieu de non-droit un nouveau droit. Et c'est ça la réponse que je fais aux gens qui disent « faut-il légiférer sur la toile ?» Réponse, la toile est un lieu pour le moment de non-droit. Et il est impossible, de certains points de vue, de prendre un droit qui serait extérieur à la toile, c'est-à-dire dans des événements qui n'ont rien à voir avec le nouvel espace, et l'appliquer arbitrairement sur ce nouvel espace qu'on vient de construire et qui est plus virtuel que réel, qui est à la fois réel et virtuel, qui est à la fois réel et informationnel. Et mon idée, c'est que, à mesure que le temps passera, à l'intérieur de ce lieu de non-droit, va émerger un droit qu'on pourrait appeler un nouveau Robin des Bois. Vous voyez ? Or, l'histoire que je raconte, qui est une histoire connue de tout le monde, c'est la théorie politique de Hobbes, c'est la théorie politique de Rousseau,
oui,
c'est
voilà.
la théorie politique racontée dans les fondations de Rome, lorsque, justement, dans cette forêt, Romulus et Rémus sont arrivés, fils de louve, c'est-à-dire fils de putain, car louve veut dire putain en latin, et puis, peu à peu, ils arrivent à la royauté et ils imposent, ou ils commencent à penser un nouveau droit dans ces lieux réputés de non-droit. Vous voyez comment, en vivant dans un nouveau lieu, peu à peu, se mettent en place des structures sociales, politiques, juridiques, qui sont parfaitement nouvelles, parce qu'elles dépendent du lieu nouveau où elles sont nées. On ne peut pas, à mon avis, appliquer un droit d'un autre lieu sur ce nouveau lieu, parce que ce lieu est tellement radicalement nouveau par rapport à celui où nous avons vécu, qu'effectivement, il faut en effet découvrir un nouveau droit ou une nouvelle politique par rapport à ce lieu-là.
Michel Serres, vous nous donnez plein d'espoir dans ce qui peut arriver. Oui. Vous n'avez pas du tout la vision déploratrice du genre c'est infernal, ces technologies nous brisent, nous briment, etc.
Mais il y a deux questions. Le téléphone ne nous brime pas.
Non, je sais, mais vous savez bien que c'est un discours.
Non, les gens qui se plaignent aujourd'hui, je voudrais bien leur répondre et dire deux choses. La première, c'est que il est vrai que la plainte, la panique, la peur se vendent bien.
Oui,
alors bonne chance, ils vendent bien leurs livres. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que les littéraires et les philosophes qui parlent dans ces livres-là ont en général une caractéristique commune, c'est qu'ils ne connaissent ni les sciences ni les techniques. Alors, ils sont tellement mal à l'aise dans ce monde-là qu'ils le condamnent avant de le comprendre. Il faut d'abord le comprendre. Il faut d'abord essayer de voir comment il se constitue, quelles sont
vous allez même plus loin que ça, parce que vous dites que c'est une nouvelle technologie. Vous dites, à un moment donné, si je me souviens bien, c'est pas exactement l'expression que vous employez, mais trouve en elle-même une nouvelle colle qui était avant la seule colle qui faisait que les gens étaient ensemble, justement, c'était la violence.
Oui.
Et vous dites, ben là, cette technologie, elle trouve une nouvelle manière de se coller.
C'est-à-dire que j'ai longtemps,
être ensemble,
exact.
On se colle.
Voilà. J'ai beaucoup étudié évidemment l'évolution de ces technologies dans le détail, et je peux donner des remarques très intéressantes. Par exemple, lorsque le téléphone portable est né, la plupart de ceux qui l'ont conçu, fabriqué et vendu pensaient que leur clientèle élective seraient les hommes d'affaires qui avaient besoin immédiatement et en temps réel de se mettre en connexion avec les États-Unis, le Brésil, l'Australie ou le Japon. Pas du tout, mais pas du tout. On s'aperçoit maintenant que le téléphone portable est pour 60 à 70% l'outil favori des mères de famille qui téléphonent simplement à Charlotte ou
et
à Jacqueline pour savoir exactement où ils sont à la sortie du lycée. Et on s'aperçoit tout d'un coup que c'est un outil de cohésion familiale étrange, n'est-ce pas? Au moment même où les livres disent que ces technologies sont tellement délétères pour la société, on s'aperçoit dans la réalité que c'est un outil au contraire de cohésion ou de relation intra-groupe ou intra-familiale. Regardez par exemple, alors là c'est plus le rapport à l'espace, c'est le rapport au temps, et c'est très intéressant aussi de le remarquer, que lorsque nous avons décidé tous les deux que nous allions parler au micro de France Culture. Vous m'avez téléphoné il y a un mois ou un mois et demi en me disant « Est-ce que vous avez un moment pour que nous puissions ?» etc. Nous avons donc tous les deux un emploi du temps.
Voilà.
Mais nous avons un emploi du temps parce que nous avons des cheveux blancs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vois très bien mes étudiants agir et ils prennent leur portable et à 6h30 ou 7h le soir, ils téléphonent à deux ou trois de leurs copains « Est-ce que tu es libre à dîner ?» C'est-à-dire ils vivent en temps réel.
Oui, absolument.
Ils vivent absolument en temps réel. Ils n'ont pas besoin de cet agenda que nous ouvrons toujours pour savoir quelles sont nos obligations parce que les nouvelles technologies les font vivre dans le temps actuel et non pas avec cette espèce de décalage que nous avons. Donc le rapport au temps, le rapport à l'espace a changé, le rapport au temps aussi.
Alors, c'est une certaine manière. Vous avez parlé tout à l'heure, ça m'a fait penser, quand vous parliez de la forêt, etc., et vous disiez que c'était le mythe qui avait été
fondateur,
le mythe fondateur du vivre ensemble. Et alors, je pensais, en vous écoutant, il y a une expression qui m'avait toujours surprise, de Novalis, qui dit que les villes sont comme des forêts. Les bâtiments sont comme des arbres,
hein,
et c'est comme des forêts en dur.
Oui, c'est ça.
Alors,
d'ailleurs, l'expression n'est pas de Novalis, vous savez, elle est de Vico. C'est Vico le premier qui a dit
alors,
ça.
Alors, Novalis
le
la
premier,
reprend.
Oui, elle la reprend. Oui. C'est Vico,
et d'ailleurs, c'est premier. Intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, moi, quand la première fois où j'étais à Sao Paulo, quand je suis descendu de l'aéroport et que je suis descendu dans la ville, c'était absolument cette impression que ça me faisait. J'allais rentrer dans une forêt, c'était impressionnant.
Exactement.
Alors, bon, transition pour arriver à la ville. Comme vous savez, bon, moi je m'occupe pas mal de villes puisque je travaille avec des architectes. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire à quel point Rome, livre fondation, c'est un livre qui est fondamental, à mon avis, pour les architectes. Tous les architectes et les urbanistes devraient avoir ce livre-là en travaillant parce que ça leur apprendra beaucoup de choses. Moi, je le fais évidemment travailler à mes élèves et à mes étudiants. Et ils sont d'ailleurs très, très intéressés par ce que vous dites. Mais pourquoi ? Parce que vous dites quelque chose de fondamental, me semble-t-il, sur Rome, vous dites que voilà, Rome, c'est précisément sa part de ce non-droit, de ce non-lieu,
oui, c'est ça.
Et c'est fait par des brigands et des putains.
Voilà.
Et que c'est à partir de ça que tous travaillent.
C'est ça. Hein,
et ça va à l'encontre aussi d'une idée qui, en général, on a, à savoir la cité antique, qui est une idée incluse, où les gens, en particulier, par exemple, à Athènes, qui est le modèle un peu de toute la cité, la première cité démocratique, où les Athéniens, c'est des gens qui sont nés à Athènes. C'est le contraire à Rome. Hein. Ils ne sont pas nés, ils viennent
un peu partout. Oui, c'est
donc
l'idéal de Rome, c'était le mélange.
Voilà. Alors, est-ce que ça vous semble pas être quelque chose qui est quelque chose de très actuel ? Parce que vous savez bien qu'en ce moment, c'est la période des villes-mondes, où le monde entier est dans une ville.
L'idée des Romains, en effet, était partie d'une vieille idée religieuse. C'est-à-dire que quand ils partaient en guerre, ce n'était pas seulement pour vaincre l'armée ennemie et pour conquérir son territoire, mais c'était pour voler ses dieux. Et le panthéon romain a été formé peu à peu en volant les dieux des voisins. Et cette espèce d'agglomération, ce qu'on appelle le polythéisme, venait en grande partie du fait qu'on avait volé les statues, les fétiches et les représentations des dieux voisins. Donc il y avait une sorte de mélange symbolique déjà dans la religion romaine archaïque. Et d'autre part, une des vues les plus profondes de la Rome antique, c'était le mélange dont vous parlez. Et en effet, c'est parfaitement contemporain, parce qu'aujourd'hui, on disait autrefois, par exemple, que l'Amérique était le melting pot des États-Unis, ce qui est évidemment complètement faux, puisqu'au contraire, ils sont très séparés les uns des autres en communauté, et que l'idéal, au fond, c'est de voir dans une rue un mélange total, non seulement d'ethnie, non seulement d'usage, non seulement de coutume, non seulement de culture, mais aussi de classe sociale. et qu'il est très très dangereux dans une ville de séparer de façon très très nette les riches des pauvres, les orientaux des occidentaux, les africains des européens, etc. C'est au contraire le mélange qui est le gage le plus profond de la République, de ce que les Romains appelaient la République romaine. Donc je suis vraiment un philosophe du mélange, puisque deux ou trois de mes livres sont intitulés « Philosophie des corps mêlés », voilà. Et que ce mélange-là me paraît en effet non seulement un concept, un vrai concept, une dignité à élever à la dignité d'un concept philosophique, mais aussi dans la réalité, le gage réel de la démocratie et de la paix, il n'y a pas de doute.
Il me semble que c'est absolument fondamental cette idée du mélange, parce que vous venez de dire, et voilà, ça, on dit souvent que les deux villes-mondes les plus emblématiques, c'est New York bien sûr, mais Los Angeles aussi. Est-ce que vous pensez que elles sont conformes à l'image qu'on en a? Est-ce que c'est vraiment des villes de mélange ou bien est-ce que c'est des villes encore ségrégées?
Il faut encore là revenir en deçà. C'est-à-dire, il faut se poser un problème linguistique réel. C'est-à-dire, est-ce que c'est le même mot qui recouvre la même chose? Lorsque nous parlons de ville ou de cité en Europe, lorsqu'on parle de cité dans le monde antique, et lorsqu'on parle de ville en Amérique, il faut quand même dire que ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer une ville comme Paris, qui est douée d'un centre puissant. Vous voyez, il y a la cité, il y a Notre-Dame, il y a des centres comme l'Étoile, il y a des quartiers bien définis. Et on ne peut pas comparer cette conurbation, si vous voulez, à l'étalement en surface d'une ville comme Los Angeles, qui ressemble beaucoup plus à un réseau, non seulement multicentré, mais acentré. Il y a très très peu de centres. Par conséquent, ce n'est pas le même objet que la ville de Los Angeles et la ville de Paris. Et à mes yeux, pour y avoir vécu dans les deux, je peux difficilement employer le même mot. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, d'une certaine manière, Paris est une ville organique, organisée, centrée autour d'un pôle, vous voyez, avec une sorte de centralisation. Il y a à Los Angeles plutôt une distribution qu'une concentration. Vous voyez. Les villes européennes sont plutôt centrées, plutôt concentrées. Les villes américaines sont plutôt des réseaux étalés. Vous voyez. Et une des preuves de ce que j'avance, c'est qu'il y a en Italie, en Espagne, en France et parfois en Angleterre une sorte de religion de la place. Vous voyez, il y a une place, la place de l'Étoile, la place de la Concorde, la Piazza Navone, et ainsi de suite. Il n'y a pas de place dans les villes américaines. Il n'y a pas de place. Le place au sens de piazza, vous voyez.
Voilà.
Alors, le mot place veut dire quelque chose de très important,
voilà,
là.
Voilà.
Par conséquent, dans une ville américaine, c'est un réseau de circulation.
Oui, oui.
Tandis que dans une ville centrée, c'est un réseau d'habitat où on se croise, où les piétons se croisent. C'est tout différent.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2002 entre Jean-Paul Dolé et Michel Serres, récemment disparus. À voix nue, réalisation Anne Pérez Franchini, Assia Khalid, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.